Et c'est vrai aussi qu'elles ne se ressemblent pas, enfin, c'est mon point de vue. Je les ai vues, moi aussi. Juan Diego n'en dit pas plus. Il lui était difficile d'imaginer en quels termes Myriam et Dorothy étaient avec Leslie. Et plus difficile encore d'imaginer pourquoi la pauvre Leslie se trouvait en leur compagnie. Clark avait dû se rendre aux toilettes. Juan Diego ne le voyait nulle part. Mais venait maintenant à sa rencontre une personne qui allait peut-être de façon pour le moins improbable le tirer de ce mauvais pas. Elle était assez mal nippée pour faire elle aussi partie de la presse locale, mais dans son regard empressé, il discernait le reflet d'une complicité inexprimée, comme si la lecture de son œuvre avait changé sa vie. Elle avait des histoires à partager. Il l'avait sauvée. Elle avait envisagé le suicide. Elle avait été enceinte à 16 ans. Ou encore, elle avait perdu un enfant quand elle était tombée sur un de ses romans. Et c'était bien ça. L'étincelle de complicité qui brillait dans ses yeux, le message implicite « Vos bouquins m'ont sauvé la vie ». Juan Diego adorait ses lecteurs inconditionnels. Tout ce qu'ils avaient aimé dans ses romans semblait scintiller dans leurs yeux. La journaliste avait vu débouler l'ardente lectrice. Se connaissait-elle au moins de vue? Juan Diego n'aurait pas pu l'affirmer. Elles avaient grosso modo le même âge. « J'aime Mark Twain, moi », cracha-t-elle à Juan Diego en guise de pique finale. Puis elle s'éclipsa. Était-ce là tout son venin? Allez en parler à Clark, lui lança-t-il. Mais elle était déjà trop loin pour l'entendre. Bon débarras, s'exclama la lectrice passionnée. Elle n'a rien lu, annonça-t-elle à Juan Diego. Moi, je suis votre plus grande admiratrice. Grande, elle l'était. Et forte, au moins 80 kilos. Elle portait un jean déchiré au genou et un t-shirt noir avec une tête de tigre féroce entre les seins. Un t-shirt militant pour la protection des espèces en voie de disparition. Juan Diego était à des années-lumière de ses préoccupations. Il était loin de se douter que les tigres avaient besoin d'être protégés. Tiens, vous avez pris du bœuf, vous aussi, s'écria sa nouvelle plus grande admiratrice, en enveloppant ses chétives épaules d'un bras aussi puissant que celui de Clark. Je vais vous dire quelque chose, lui dit-elle en l'accompagnant à sa table. Vous savez, l'épisode des chasseurs de canards, quand ce crétin oublie de retirer sa capote, rentre chez lui et pisse devant sa femme. J'adore ce passage. Il n'a pas plu à tout le monde, objecta Juan Diego. Un ou deux articles lui revenaient en tête. C'est bien Shakespeare qui a écrit les pièces de Shakespeare, dites-moi. Lui demanda-t-elle en le menant fermement vers une chaise. Je le crois, répondit Juan Diego avec prudence. Il cherchait toujours du regard Clark et Josefa. Il adorait ses lectrices inconditionnelles, mais parfois, trop, c'est trop. C'est Josefa qui le repéra et l'entraîna à la table où Clark et elle l'attendaient. La protectrice des tigres est critique littéraire, elle aussi, lui annonça Clark. Une de celles qui lisent effectivement les romans. J'ai aperçu Myriam et Dorothy pendant la conférence, dit Juan Diego. Votre amie Leslie était avec elle. Ah, j'ai vu Myriam avec quelqu'un que je ne connaissais pas, dit Josefa. Sa fille, Dorothy, indiqua Juan Diego. D, précisa Clark. Manifestement, Clark et Josefa appelaient Dorothy par son initiale. Elle n'a pas l'air d'être sa fille, fit remarquer le docteur Quintana. Elle n'a pas sa beauté. Leslie me déçoit beaucoup, déclara Clark. Josefa resta silencieuse. Elle te déçoit beaucoup, se borna à dire Juan Diego. Que faisait donc Leslie je ne sais quoi en compagnie de Dorothy et Myriam, elle qui n'avait rien à faire avec elle, sauf si elle l'avait ensorcelée? Ce mardi matin, à Manille, 11 janvier 2011, les nouvelles du pays d'adoption de Juan Diego n'étaient pas bonnes. Le samedi précédent, une parlementaire démocrate de l'Arizona, Gabrielle Giffords, avait pris une balle dans la tête. Elle avait une chance de s'en sortir avec des dommages irréversibles au cerveau. 6 personnes étaient mortes dans la fusillade, dont une fillette de 9 ans. Le tireur était un jeune homme de 22 ans. Il avait utilisé un pistolet semi-automatique Glock doté d'un chargeur grande capacité de 30 cartouches. Ces propos cités étaient illogiques et incohérents. Encore un anarchiste détraqué? Je suis ici très loin, aux Philippines, songeait Juan Diego. Mais dans mon pays d'adoption, les haines partisanes au sein de l'ordre public ne sont jamais très loin. En parcourant les informations locales, il lisait le journal de Manille en prenant son petit déjeuner à la Scott. Il put constater que la bonne journaliste, sa lectrice inconditionnelle, avait été plutôt sympathique avec lui. Le portrait de Juan Diego Guerrero et l'évocation de son œuvre littéraire étaient bien documentés et élogieux. La journaliste armoire à glace, qu'il avait surnommée la protectrice des tigres, était une fine lectrice et avait fait preuve de fair-play. La photo de l'article, en revanche, avait sans nul doute été choisie par un abruti de rédacteur en chef, l'ange gardien des tigres en péril n'y étant pour rien. Sur la photo, assis à sa table devant son plat de bœuf mutilé et sa bière, Juan Diego avait les yeux fermés. Il ne donnait pas l'impression de dormir, mais d'être plongé dans un début de coma éthylique. La légende disait « Il aime la bière San Miguel ». La colère qui monta en lui à la vue de ce cliché aurait dû lui mettre la puce à l'oreille. L'adrénaline était dans les starting blocks. Mais il n'y fit pas attention. Et il sentait les symptômes d'une légère indigestion, peut-être de nouveau ses brûlures d'estomac, pas de quoi en faire un plat. À l'étranger, on ingurgite souvent des aliments que l'estomac n'apprécie pas. Ce qu'il avait pris au petit déjeuner ou le bœuf à la vietnamienne de la veille pouvait en être la cause, se disait-il en parcourant le hall de réception vers les ascenseurs, où il tomba nez à nez avec Clark qui l'attendait. Ah, je suis heureux de voir que vos yeux sont bien ouverts ce matin, lui dit celui-ci d'un ton badin. À l'évidence, il avait vu la photo dans le journal. Il avait l'art de plomber la conversation. De fait, ni l'un ni l'autre ne savaient trop que dire de plus dans l'ascenseur de la Scott. Bienvenido les attendait dans la voiture devant l'entrée de l'hôtel, où Juan Diego tendit en toute confiance la main à l'un de ses chiens renifleurs. Clark French, qui s'était préalablement documenté, commença son cours d'histoire sur la route de Guadalupe Viejo. Le district de Guadalupe à Makati formait un véritable quartier et avait été nommé ainsi en référence à la sainte patronne des premiers colons espagnols. Vos vieux amis et les miens de la Compagnie de Jésus, déclara Clark à son ancien professeur. Ah, ces jésuites, ils sont partout. Ce n'était qu'une petite phrase de rien du tout. Mais Juan Diego fut surpris par la difficulté qu'il avait à parler et respirer à la fois. Il se rendait compte que sa respiration n'était pas naturelle. Il sentait une gêne au niveau de l'abdomen, une sorte d'oppression. C'était sans doute le bœuf, assurément mutilé, pensa-t-il. Le sang lui affluait au visage. Il commença à transpirer. Même s'il détestait la climatisation en voiture, il allait prier Bienvenido de la remonter un peu. Mais il s'en abstint, sa respiration devenait soudain si difficile qu'il doutait de pouvoir articuler quoi que ce soit. Durant la Seconde Guerre mondiale, poursuivait Clark, le quartier de Guadalupe a été très durement touché. Des hommes, des femmes, des enfants ont été massacrés par les soldats japonais, intervint Bienvenido. Bien sûr, Juan Diego voyait très bien où tout cela conduisait. C'est à Notre-Dame de Guadalupe qu'il revient de protéger tout le monde. Il savait aussi que les anti-avortements, les soi-disant pro-vie, s'étaient appropriés Guadalupe. « Du ventre de la mer à la tombe », entonnaient invariablement de nombreux prélats. Que disaient les passages de la Bible qu'il citait en permanence ? On voyait des crétins brandir des panneaux dans les zones d'en-but des stades de football. Livre de Jérémie 1:5. Il voulait questionner Clark, qui devait connaître le passage par cœur. « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu naisses, je t'avais consacré. » Quelque chose comme ça. Juan Diego voulait parler, mais les mots ne sortaient pas. Il s'efforçait de respirer normalement. Il transpirait maintenant abondamment. Ses vêtements lui collaient à la peau. Il savait qu'il n'irait pas au-delà de... avant de te former.